Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi certains conjoints ne parlent pas d'argent? Un texte d'Anne Carbs du New York Times, paru le 15 septembre 2024 dans la presse. Les personnes stressées par leurs finances hésitent souvent à parler d'argent avec leurs conjoints, mais elles devraient le faire. Cela peut être bon pour leur relation, selon une étude récente. Les gens qui s'inquiètent des factures ou de la gestion des finances en général redoutent souvent la possibilité que parler d'argent mène à une dispute. Alors ils évitent le sujet, selon une étude des universités Cornell et Yale, publiée en septembre 2024 dans le Journal of Consumer Psychology. Or, des recherches antérieures montrent que la communication sur l'argent aide les couples à dépenser plus sagement et à mieux gérer leurs dettes. Ces gens craignent le conflit, alors ils évacuent complètement le sujet, explique Emily Garbinski, professeure de marketing et de communication de gestion à l'Université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, qui a co-signé l'étude. Pourquoi cette difficulté? Selon Aja Evans, thérapeute financière à New York, les gens peuvent avoir honte d'avoir des problèmes d'argent. Ils peuvent craindre que de parler d'argent avec d'autres membres du couple nuise à leur relation. Les thérapeutes financiers aident leurs clients à comprendre comment leurs émotions et leurs croyances sur l'argent affectent leur comportement financier. C'est un mécanisme de défense, mais dans le cas des enjeux financiers, plus on les évite, plus ils s'aggravent. Selon Megan Ford, professeure et thérapeute financière à l'Université de Géorgie, les personnes issues de familles où on n'encourageait pas les discussions sur l'argent ou qui en ont manqué n'ont pas eu de modèle de communication productive sur les finances. Chacun apporte son bagage financier dans une relation, dit-elle. Parfois, c'est un sac à main. Parfois, c'est trois grosses valises. En évitant de parler d'argent, on perd aussi l'occasion de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre son partenaire. Selon Brad Klontz, psychologue et planificateur financier, la plupart des couples ont, à un moment donné, une discussion sur leur avenir ensemble, y compris avoir des enfants ou pas. Mais pour ce qui est des enjeux d'argent, je ne crois pas, dit-il. Il pose à ses clients des questions qui explorent la source de leurs attitudes, comme « Quels sont mes trois principaux objectifs financiers ?» ou « Quels sont mes souvenirs les plus douloureux et les plus joyeux à propos de l'argent ?» Les cigales et les fourmis. Lorsqu'il s'agit de gérer l'argent, les opposés s'attirent parfois, note Scott Rick, professeur de marketing à l'Université du Michigan, qui a étudié les rapports entre dépensiers et économes, les cigales et les fourmis, si on veut, formant un couple. Un individu très à cheval sur son budget peut s'éprendre d'une personne moins frugale. Selon Scott Rick, ça peut être charmant au début, surtout pour une personnalité frugale ayant un coup de foudre pour une personnalité insouciante financièrement. Mais dans la durée, ce qui nous fascinait finit par nous irriter, surtout si le couple a des enfants et doit établir un budget pour répondre aux besoins de la famille. Mais en général, chaque conjoint peut contrebalancer les tendances extrêmes de l'autre, dit M. Rick, qui avoue son côté cigale. Sa femme est la fourmi du couple, prudente en matière de dépenses, dit-il. Je suis marié à une économe, et ça fonctionne, parce que chacun fait des concessions. Je la laisse gagner sur les gros morceaux, elle me laisse gagner sur les sorties et les vacances, dit-il. Il ne faut pas qu'un des deux gagne tout le temps, c'est vital d'avoir les deux perspectives. L'étude de Mme Garbinski et de ses collègues montre que le tabou sur l'argent peut être levé. Quand les gens apprennent à envisager les conflits financiers comme solubles plutôt que perpétuels, c'est-à-dire basés sur des différences irréconciliables, ils sont plus enclins à parler de finances avec leurs partenaires, ont constaté les chercheurs. Trois questions sur les discussions financières. Compte conjoint ou compte séparé? Les deux. Des études suggèrent que mettre en commun certains fonds rend les relations plus satisfaisantes, dit la chercheuse Émilie Garbinski. Partager un compte familial oblige à parler d'argent. Ça permet au couple de se mettre sur la même longueur d'onde. Selon le professeur Scott Rick, un compte conjoint a aidé son couple à considérer que certaines sommes leur appartenaient en tant qu'unité plutôt qu'en tant qu'individu. Pour les décisions de haute importance, c'est notre argent. Selon lui, les dépenses de base, loyer ou prêt hypothécaire, mensualité de prêt auto, services publics, etc., devraient transiter par le compte commun, alimenté de façon équitable. Par contre, M. Rick prône aussi le fait que chaque partenaire ait son propre compte pour ses affaires personnelles et les factures dont il est responsable individuellement. Ainsi, chaque partenaire peut faire ses achats de tous les jours sans avoir l'impression que l'autre scrute chaque dépense. Chacun a ses intérêts et activités à soi. C'est nécessaire, dit-il. Comment commencer à parler d'argent en couple? Si parler d'argent vous intimide, commencez avec un sujet dont l'enjeu n'est pas trop élevé, explique Debra Kaplan, psychologue et auteur de Coupleship Inc., From Financial Conflict to Financial Intimacy, Couple Inc., du conflit financier à l'intimité financière. Ainsi, au lieu de commencer par une discussion costaude sur l'endroit où vous vivrez à la retraite, commencez par établir votre prochain budget vacances. Quand et où parler d'argent? La thérapeute financière Aja Evans recommande de planifier régulièrement du temps, idéalement une fois par mois, pour parler de finances. Ces rendez-vous financiers servent à examiner les dépenses récentes ou les progrès accomplis dans les objectifs financiers. J'adore le concept de sortie financière, dit-elle. Pas besoin de faire ça à la maison. Allez faire ça au restaurant si vous êtes à l'aise de le faire, dit Madame Evans. Si parler d'argent au restaurant n'est pas votre tasse de thé, la professeure Megan Ford suggère quand même de faire varier l'endroit où on le fait. Au lieu de toujours s'asseoir face à face à table, on peut aussi sortir faire une marche pour en discuter. S'aérer les idées fait du bien, et marcher côte à côte fait qu'on parle sans toujours se fixer du regard, ce qui est moins intimidant. C'était « Pourquoi certains conjoints ne parlent pas d'argent », un texte d'Anne Carms du New York Times, paru le 15 septembre 2024 dans la presse.
Quatre revues sous la loupe. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. Les temps sont durs pour les revues culturelles au Québec. Comment résoudre les défis quand les équipes sont toutes petites et que le financement est riquiqui? Le Devoir a demandé à quatre publications de décrire leur réalité sur le terrain et les conditions qu'elles peuvent offrir à leurs employés. L'Urelu. Le plus récent numéro de cette revue, consacré à la littérature jeunesse, compte 68 pages en raison des coupes. Il nous est arrivé de publier des numéros de plus de 100 pages, rappelle son rédacteur en chef Daniel Cernine. Il est désormais impossible de faire des dossiers de 8 à 10 pages. Les lecteurs de l'Hurlu, revue fondée en 1978, sont actifs dans les domaines de l'enseignement et des bibliothèques en lien avec la lecture chez les jeunes. Ce sont souvent eux qui déterminent quels sont les livres les plus pertinents à faire entrer dans les écoles, dans les classes. Le budget annuel de l'Hurlu est de 170 000 $. La subvention pluriannuelle du calque était gelée à 60 000 $ depuis 2008. En dollars constants, elle ne valait plus que 43 000 $. On nous a lancé une bouée de 51 000 $ en nous annonçant que nous perdions le financement pluriannuel. Plus moyen de voir venir, donc, et les prochains sous seront donnés par projet, alors que l'idée d'une revue, c'est la continuité. L'équipe salariée est d'une personne et demie. Nous avons diminué nos heures plutôt que de réduire nos faramineux taux horaires de 21 $ et 23 $. Pour les pigistes et les chroniqueurs, les tarifs à la page ont été ramenés au niveau de 2021, 120 $ la page de revue. Les manutentionnaires à l'entrepôt de notre distributeur, d'Imedia, sont mieux payés que moi comme directeur de revue. Au dernier trimestre de 2024, je vais me payer 18 heures par semaine alors que j'en travaille le triple. De quoi l'Hurlu a-t-elle besoin? D'un entreposage gratuit pour notre collection de dizaines de milliers de livres jeunesse, ce pourquoi nous payons un loyer désormais hors de nos moyens, 16% de notre budget annuel. Et de retrouver le niveau de financement pré-couperet avec lequel nous comptions pouvoir fonctionner après avoir résorbé notre déficit. La survie de la revue est en jeu. Espace. Publié depuis 1987, Espace est une revue de référence de 132 pages sur l'art actuel qui sort 3 fois par année. Elle compte 250 abonnés. La revue est tenue par une équipe de 4 personnes qui se nourrit d'une masse salariale famélique. Il est difficile de retenir les employés et les collaborateurs et de créer de la continuité, car nous n'arrivons pas à augmenter leur cachet, indique la rédactrice adjointe Gina Cortopassi. Les subventions ne suivent aucunement l'inflation. Nous désirons rémunérer à sa juste valeur ce travail qui nous est essentiel, mais nous ne le pouvons pas. Reste alors à réduire le nombre de pages, à publier moins sur le site web, à passer un nombre d'heures important à développer des revenus autonomes en mettant de côté la représentation, le développement et la production des contenus de rédaction. À terme, donc, cela veut dire moins de distribution. Et qui dit moins de distribution et moins d'événements, dit moins de subventions. C'est à ce vertige et à cette impasse que nous confrontent les coupes en culture actuellement. Nous aurions besoin que soient reconduites au minimum les sommes de l'année précédente. Liberté. Fondée en 1959, la revue Liberté parle 4 fois par année d'art et de politique. Je suis consciente de notre chance dans le contexte, oui, répond Valérie Lefebvre-Fauché, rédactrice en chef de Liberté. Nous avons tout misé sur cette demande et nous n'avons pas obtenu la somme que nous demandions. Ce que nous avons reçu équivaut à une sorte d'indexation et ne nous permet pas d'envisager des développements. Il faudra beaucoup d'imagination pour trouver comment améliorer nos pratiques de gestion et mieux rémunérer les artistes, ce qu'on nous demande bien sûr en tant qu'organisme. J'ai l'impression que tout le milieu est fragilisé et que le marché ne va pas bien malgré ce que certains avancent. Pour moi, toutes les revues, tous les écrivains ont besoin d'être mieux soutenus en ce moment. Les revues se tiennent dans un drôle d'espace, avec un pied dans le marché et un autre dans la création. D'ici, on voit les artistes chanceler et on ne peut pas les appuyer comme il le faudrait. Nous collaborons avec des gens qui font souvent du travail bénévole par amour de l'art et du savoir, et pour rendre le monde plus vivable. Et ces gens ne peuvent plus payer l'épicerie. C'est inquiétant pour la pensée, pour la création, pour la liberté d'expression, pour notre société en général. Spirale. Née en 1979, la revue Spirale, l'une des mieux financées de la SEDEP, parle de l'actualité des arts, des lettres et des sciences humaines. Elle a reçu une augmentation de 18% du programme Soutien à la mission qui lui permet de consolider l'organisation et de pérenniser le fonctionnement actuel à court et à moyen terme, mais avec très peu de marge de manœuvre, rapporte Catherine Chagnon, directrice. Cette stabilité financière provient de changements récents, dont une réduction du nombre de numéros publiés annuellement qui est passé de 4 à 3 et la réorientation de la plateforme Web. Ces décisions se sont imposées en réaction à la sous-rémunération des collaborateurs, dont les cachets, devenus indécents avec le temps, devaient absolument être revus à la hausse, même si ceux-ci ne sont toujours pas satisfaisants, explique Mme Chagnon. Bien que nous puissions continuer de fonctionner normalement, nos subventions demeurent largement insuffisantes pour assurer le développement que nous imaginons pour la revue à court et à moyen terme, en particulier pour mettre sur pied de nouveaux projets et améliorer les conditions de travail de l'équipe dont les salaires stagnent sous le seuil moyen malgré une énorme charge de responsabilité et un niveau de scolarité très élevé. C'était « Quatre revues sous la loupe », un texte de Catherine Lalonde, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir.
Les restaurations au fronton du séminaire Saint-Sulpice n'avaient pas été autorisées. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 17 septembre 2024 dans Le Devoir. Qu'est-il arrivé aux deux lions du fronton d'un des édifices historiques les plus importants de l'histoire du Québec? Ni la Ville de Montréal, ni le ministère de la Culture n'ont été prévenus de cette intervention qui a transmué en rouge et en doré un emblème au cœur de l'histoire montréalaise, même si le site est en principe protégé au plus haut degré. L'intervention n'était pas autorisée, a appris Le Devoir. Désormais peinturlurée de couleurs électriques, avec des lions dont la finesse originale est considérablement altérée, le fronton du vieux séminaire de Saint-Sulpice aurait dû faire l'objet d'une grande attention, comme le signalaient hier des experts au Devoir. Le bâtiment, érigé entre 1684 et 1687, est un des témoins les plus importants de l'histoire du Québec. Le travestissement des armes de la façade du vieux séminaire de Saint-Sulpice à Montréal a pris les autorités de court. Au cabinet du ministre de la Culture et des Communications, MCC, Mathieu Lacombe, on indique que jamais une chose semblable n'a été autorisée. On précise cependant que, dans le cas qui nous occupe, le ministre a délégué ses pouvoirs à la municipalité de Montréal. Depuis 2018, c'est la Ville de Montréal qui exerce le pouvoir en matière d'autorisation de travaux dans un tel site patrimonial déclaré. Après avoir constaté dans Le Devoir les résultats de l'intervention faite sur ce bâtiment du 17e siècle, le MCC a contacté la Ville de Montréal pour connaître l'heure juste. Nous avons contacté la Ville, et la Ville nous confirme qu'il n'y a eu aucune demande de faite de leur côté à cet effet, explique Catherine Boucher, attachée de presse au MCC. Ni la Ville ni le ministère n'ont reçu de demande de permis. Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on confirme en effet au Devoir que la municipalité n'a reçu aucune demande de travaux. Le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, n'a pas donné d'avis non plus sur cette question, répond-on aussi au Devoir. Il y a pourtant plusieurs couches de protection censées mettre à l'abri un édifice pareil de toute intervention intempestive. En principe, les bâtiments du vieux séminaire et son site sont protégés par la Ville de Montréal, par l'État du Québec et par la Commission fédérale. S'ajoute à cela le fait que l'ensemble se trouve situé dans un site patrimonial depuis 1964. Selon la Ville de Montréal et le MCC, malgré ces barrières légales, les Sulpiciens ont néanmoins fait cavalier seul. En vertu de la loi, la municipalité est en mesure de poursuivre des contrevenants. Au devoir, le cabinet de la mairesse a indiqué ne pas en être encore rendu là. C'est une infraction à la loi. Quel message ça envoie si on ne poursuit pas? Observe l'avocat Charles Breton de Meule, professeur de droit municipal à l'Université du Québec en Outaouais. De son côté, le MCC précise qu'il entend accompagner Montréal pour s'assurer que le suivi nécessaire sera fait. En 2020, les anciens seigneurs de l'île de Montréal, que sont les Sulpiciens, ont licencié tous les professionnels censés veiller sur leur riche collection patrimoniale qui touche aux origines du Québec et du Canada. Suivant les révélations faites par Le Devoir sur l'état des lieux, la ministre de la Culture et des Communications du temps, Nathalie Roy, avait signifié la volonté de l'État de protéger l'ensemble des documents et des artefacts au terme de la loi. Ceux-ci demeurent aujourd'hui peu ou prou accessibles au public. Les Sulpiciens se sont dotés depuis d'une nouvelle équipe réduite pour s'occuper de leurs trésors patrimoniaux. C'était « Les restaurations au fronton du séminaire Saint-Sulpice n'avaient pas été autorisées », un texte de Jean-François Nadeau paru le 17 septembre 2024 dans Le Devoir.
Ces auteurs qui tiennent la route, David Goudreau. Un texte d'Élise Massé, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Un passeur de mots. David Goudreau, écrivain québécois contemporain, arpente les lignes de la littérature avec une plume vibrante et singulière. Né en 1980 à Trois-Rivières, cet auteur a su captiver les lecteurs par sa capacité à explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine, tout en offrant des histoires empreintes d'une profonde humanité. Son œuvre, riche et diversifiée, se déploie à travers différents genres littéraires, du roman au recueil de poésie, en passant par la nouvelle et les albums jeunesse. Il aborde des thèmes universels tels que la quête identitaire, la rédemption, la solitude et la résilience avec une sensibilité désarmante, offrant ainsi des récits aussi troublants que captivants. Son parcours atypique et les défis rencontrés au quotidien ont façonné son regard sur le monde. Son expérience de vie, notamment comme travailleur social, lui confère une capacité particulière à donner une voix aux exclus, aux marginaux et à ceux qui luttent pour leur dignité. Dès ses débuts, David Goudreau a su se démarquer par son écriture audacieuse et percutante. Son premier roman, « La bête à sa mère », Stanké, paru en 2015, a marqué les esprits par sa crudité et sa sincérité. Le lecteur plonge dans l'univers tourmenté d'un jeune homme en quête d'identité, évoluant dans un milieu familial marqué par la violence et la marginalité. Ce premier roman a été finaliste pour le prix Ringuet et le prix France-Québec, et il a remporté le prix des Nouvelles Voix de la littérature et le Grand Prix littéraire Archambault, confirmant ainsi son talent et sa place parmi les grands de la littérature québécoise. En 2016, il nous revient avec « La bête et sa cage », Stanké, la suite tant attendue de son premier roman qui, cette fois-ci, plonge le lecteur encore plus profondément dans l'univers du protagoniste. Il explore avec finesse les mécanismes de la mémoire et de la rédemption, offrant une œuvre saisissante. En 2017, il complète cette trilogie avec « Abattre la bête », Stanké, qui reçoit le prix de l'œuvre de l'année en Estrie. En 2020, Son roman « Ta mort à moi », Stanké, est présélectionné pour le prix France-Québec. Le lecteur se retrouve en plein cœur d'une biographie en chantier de la poète fictive Marie-Maude Pranèche-Lopez, qui raconte la vie d'un génie au mal de vivre envahissant. On y retrouve des extraits du journal personnel de la poète, des réflexions de l'éditeur, le tout dans un ordre chaotique, où chaque segment a sa raison d'être. On y retrouve aussi un hommage à de grands auteurs, tels que Miron, Ducharme et Gary. C'est en 2022 qu'il publie son cinquième roman, Maple, Stanké, avec un personnage dans le même univers que la bête, mais dans un récit sous forme d'enquête policière. Ce roman, que l'on classerait dans le genre trashy comique, dépeint le portrait coloré de Maple, une ex-prostituée qui se décide à résoudre les crimes en série qui ciblent son ancien milieu de travail. Pour ce qui est de son écriture poétique, celle-ci est souvent marquée par un langage cru et des images saisissantes, créant ainsi une brèche de lumière malgré les thèmes plutôt sombres. À travers des vers ciselés et des métaphores évocatrices, il parvient à capturer l'essence même de l'existence humaine. Parmi ses recueils de poésie, « Vif oubli »,« Mémoire d'encrier » est le plus récent et le plus personnel. Il puise dans ses nombreuses nuits d'insomnie pour mettre son désespoir et sa résilience à nu. Il a également sorti deux albums jeunesse touchants, l'un traitant du divorce, la réparation de mes parents, deux, et l'autre de neurofibromatose, une maladie génétique qui affecte principalement la peau et les os, la belle petite monstre, deux. Les illustratrices, France Cormier et Camille Lavoie, ont fait un travail d'illustration magnifique pour ces deux pépites. En parallèle à son travail d'écrivain, David Goudreau s'engage activement dans la promotion de l'éducation et de la lecture. Convaincu du pouvoir transformateur des mots, il fait plusieurs conférences dans les écoles et les milieux défavorisés pour témoigner de sa passion et encourager les jeunes à explorer le monde au travers de la littérature. Son engagement social et sa sensibilité font de lui un véritable passeur de mots. Son œuvre complète invite les lecteurs à poser un regard nouveau sur le monde qui les entoure et à embrasser leur humanité dans toute sa complexité. David Goudreau est un auteur à surveiller de près et à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je suis persuadé que ses textes résonneront au-delà des frontières et des générations, portant au sommet les couleurs de la littérature québécoise à travers le monde. C'était « Ces auteurs qui tiennent la route », David Goudreau. Un texte d'Élise Massé, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.